Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons de la gouvernance en Afrique avec en toile de fond la publication du rapport annuel de la Fondation Mo Ibrahim. Chaque année, 54 pays sont passés au crible et pour évaluer justement la performance de chacun d'entre eux, la Fondation s'appuie sur une centaine d'indicateurs. Cela va de l'indépendance de la justice au respect des droits de l'homme, en passant par la qualité de l'enseignement, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé. En tout cas, ce qui ressort de ce dernier rapport, c'est qu'aujourd'hui, sur le continent africain, 3 citoyens sur 4 vivent dans un pays où la gouvernance s'est améliorée ces 10 dernières années. Alors justement, vous qui êtes sur place, appelez-nous, on a envie de vous entendre, vos témoignages nous intéressent. Dites-nous si vous avez effectivement constaté des améliorations dans votre pays, dans quel domaine. 33 9 693 693 70, vous continuez à nous envoyer également vos réactions sur la page Facebook de l'émission, des témoignages qui nous viennent du Cameroun, du Niger, de la Guinée, du Bénin, du Togo. Vous êtes nombreux à souhaiter prendre la parole. C'est vrai que c'est un vaste sujet, transversal, qui forcément, où que vous soyez sur le continent africain, vous concerne. On vous donnera donc la parole dans une trentaine de minutes. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec la Nouvelle-Calédonie. On vous en parle sur l'antenne de RFI. C'est dimanche que les électeurs de cet archipel situé au large de l'Australie, à plus de 16 000 km de Paris, se prononceront sur le maintien dans la République française. Bonjour Fiston.
Bonjour Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI et à toute l'équipe d'Appel sur l'actualité.
Merci de vos encouragements. Vous nous appelez du nord du Togo, nous vous écoutons.
Exactement. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie a attendu 30 ans après le massacre d'Ouvéa avant d'organiser le petit référendum? La Nouvelle-Calédonie a-t-elle les moyens économiques d'être indépendante?
Alors, bonne question, effectivement. Les deux sont intéressantes. Julien Chavanne, l'envoyé spécial de RFI en Nouvelle-Calédonie, est en direct avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Alors, Fiston le disait à l'instant, il a fallu attendre tout de même 3 décennies depuis l'électrochoc provoqué par la prise d'otages sanglante d'Ouvéa pour organiser effectivement ce référendum sur l'indépendance. Pourquoi avoir attendu 30 ans ?
Eh bien, parce que tout le monde partait de très loin, que le chemin fut long et difficile. Ouvéa, c'est une prise de sang qui finit dans, une prise d'otage qui finit dans le sang. 19 assaillants kanaks, 4 gendarmes, 2 militaires sont tués. Un traumatisme pour toute la population ici, le point culminant d'années de tension et de violence. Mais c'est aussi un électrochoc pour les acteurs politiques qui vont peu à peu reprendre le fil du dialogue. Et c'est à ce moment-là, en 1988, que les signataires des accords de Matignon s'engagent, noir sur blanc, a organisé un référendum d'autodétermination. L'idée est proposée 10 ans plus tard aux Calédoniens qui répondent oui. Et il faudra donc attendre encore 20 ans pour que ce référendum ait bien lieu.
Alors nous y sommes, Julien Chavanne. Comment se déroule la campagne ?
Eh bien c'est assez calme. La campagne est quasiment déjà terminée ici. Les partis ont donné leur dernier meeting. On voit très peu d'affiches dans les rues. Chez les indépendantistes, la principale formation, le FLNKS, a concentré ses dernières forces à tenter de mobiliser les jeunes, les indécis, pour faire le plus gros score dimanche. L'enjeu est énorme. C'est l'aboutissement d'une longue lutte pour les indépendantistes. Mais pour l'instant, les sondages donnent le non gagnant à plus de 65%. Un responsable indépendantiste estime que ce référendum sera plutôt un galop d'essai et il compte sur la tenue possible de 2 autres consultations populaires pour arracher l'indépendance. Les partis non indépendantistes sont, eux, divisés sur la méthode face à ce vote, avec d'un côté une droite dure qui n'entend faire aucune concession et veut, je cite, « purger la revendication indépendantiste », si c'est bien le nom qui l'emporte largement. De l'autre côté, il y a le centre-droit qui domine le gouvernement et qui pense déjà au lendemain du référendum en appelant toutes les parties à reprendre le chemin du dialogue.
Alors, Fiston nous a posé la question qui probablement anime essentiellement cette campagne électorale en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie a-t-elle vraiment les moyens économiques d'être indépendante ?
Ben oui, c'est une des questions clés ici. Hein. Le camp non indépendantiste affirme qu'accéder à l'indépendance, bien, cela reviendrait à mettre la Nouvelle-Calédonie à la merci de la Chine. L'État français verse chaque année une enveloppe d'environ 1,5 milliard d'euros. Sans cet argent, expliquent les loyalistes, l'île n'aurait plus les moyens d'assurer son niveau de vie, le financement des services publics comme l'école ou l'administration. Il n'y a pas de baguette magique pour les finances de Kanaky, le nom du pays donné par les Kanaks ici. C'est comme cela qu'un responsable politique opposé au oui ironisé. Les indépendantistes, eux, disent le contraire. Ils assurent qu'en vivant autrement, en se développant différemment, les Calédoniens ont les moyens de devenir indépendants.
Jour J-4 donc pour ce référendum sur l'indépendance. En quelques mots, Julien Chavanne, comment l'État gère-t-il ce scrutin ?
Officiellement, le gouvernement français est totalement neutre, mais il est clair que l'exécutif veut garder la Nouvelle-Calédonie dans son giron. En mai dernier, quand Emmanuel Macron est venu ici, il avait déclaré que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie. Et puis, dès lundi, lundi prochain, quelques heures après la tenue du référendum, le Premier ministre Édouard Philippe sera à Nouméa pour rencontrer les responsables locaux, façon de bien montrer que l'État reste au centre du jeu politique et qu'il ne doute pas vraiment du résultat de dimanche.
Fiston, a-t-on répondu à vos questions ?
Exactement, merci vraiment à ce journaliste là qui a répondu à mes questions.
Et ce journaliste s'appelle Julien Chavanne, qu'on va retrouver évidemment d'ici à dimanche, d'ici au scrutin, et puis évidemment lundi avec la visite d'Édouard Philippe, le Premier ministre, à Nouméa. Bonne soirée Julien Chavanne, il est 19h17 en ce moment, donc en Nouvelle-Calédonie, 9h17 ici à Paris. On repasse au standard, d'autres questions. Jo, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes au Bénin, vous nous appelez de Cotonou, on vous écoute.
Oui, effectivement, la semaine dernière, l'OTAN a lancé en Norvège les plus grandes manœuvres militaires depuis la guerre froide près de la frontière russe. Comment expliquer cette démonstration de force maintenant et en Norvège? Et quelle est la réaction de la Russie face à ces manœuvres près de son territoire?
Ah oui, la réaction de la Russie, Nathanaël Vitran en parlait il y a quelques minutes dans son journal, on va y revenir évidemment dans un instant, mais c'est vrai qu'il faut imaginer 50 000 soldats, 10 000 véhicules, 65 navires, 250 aéronefs, c'est incontestablement la plus importante manœuvre militaire organisée par l'OTAN depuis la fin des années 80. Bonjour Yves Boyer. Chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous êtes spécialiste des relations internationales et de l'OTAN. L'opération a commencé il y a une semaine, elle doit encore durer 8 jours. En deux mots, expliquez-nous déjà quel est l'objectif de cet exercice.
Écoutez, un exercice de ce type a lieu tous les 3 ans. Le dernier, le précédent, avait été organisé en Espagne et au Portugal en 2015, et il s'agit en réalité de tester un certain nombre de procédures d'intégration de différentes forces de l'OTAN pour voir si ça fonctionne bien. Et en effet, le commandement est placé sous la responsabilité du Joint Forces Command, qui est implanté à Naples, en Italie. Et donc, on réunit un certain nombre d'unités américaines, allemandes, etc., etc., pour voir si elles sont capables d'interagir les unes avec les autres dans un exercice interarmé qui mobilise des forces aériennes, des navires, évidemment, et des forces terrestres.
Oui, des forces venant de 31 pays. Pourquoi une telle démonstration de force maintenant ? Pourquoi l'OTAN montre-t-elle à ce point ses muscles ?
Mais si vous voulez, je crois que c'est pas une démonstration de force, c'est un exercice, comme je viens de le dire, qui a lieu tous les 3 ans. 50 000 hommes, c'est certes, ça paraît important, enfin c'est pas colossal, donc c'est pas une démonstration de force, c'est un galop d'essai, si je puis dire, pour donc entraîner ensemble des forces qui viennent des États-Unis, puisque c'est le principal contingent avec 14 000 hommes. Il y a un contingent allemand de 10 000, il y a les Français sont au nombre de 3 000, le Royaume-Uni de 2 700, et ensuite un certain nombre d'unités des différents pays composant l'OTAN. Donc c'est pas une démonstration de force, je crois qu'il faut pas voir ça.
Donc vous relativisez, en même temps on a pu entendre certains experts et même des militaires dire « Oui, c'est un exercice militaire, mais en même temps c'est aussi l'occasion d'envoyer un message politique à d'éventuels agresseurs ».
Oui, enfin, si vous pensez à la Russie, je crois que la Russie n'est pas en posture d'agression. La Russie, elle est militairement assez forte, mais en termes de capacité, en termes de force réelle, elle est petite par rapport à l'OTAN. La Russie a un PNB qui est à peu près inférieur à celui du Texas ou l'équivalent de l'Italie. Donc elle n'est pas en mesure de représenter une menace. Simplement, la Russie, elle est un petit peu soucieuse puisque l'exercice borde les frontières de la Russie, notamment tout ce qui est la péninsule de Kamchatka, où la Russie a implanté un certain nombre d'installations militaires, notamment celles qui sont liées à sa force nucléaire stratégique. Donc les Russes, en conçoivent une certaine crainte en réalité.
Oui, les Russes parlent même de provocation de la part de l'OTAN. L'armée russe qui annonce d'ailleurs des exercices de tir de missiles dans les eaux internationales au large de la Norvège, dans cette zone où justement des navires de l'OTAN devaient se déployer.
Oui, enfin ça, c'est si j'ose dire, c'est un petit peu, c'est du théâtre en quelque sorte. Mais si vous voulez, une fois de plus, il faut bien voir, c'est que l'OTAN est soumise à des contraintes d'exercice, et donc c'est dans ce cadre-là qu'a lieu cet exercice. C'est pas une mesure destinée à dire aux Russes, vous savez, on est très forts. Je pense que les Russes le savent très bien, et donc il faut pas voir ça en termes de confrontation possible entre les uns et les autres. Alors les essais de missiles, ça se pratique par tout le monde et de tout temps. Donc je crois que le fait de dire on va tirer des missiles dans cette zone, ça n'a rien de surprenant c'est pas très significatif.
Merci beaucoup Yves Boyer, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique. On salue évidemment Joe qui nous appelait de Cotonou au Bénin. Dans un instant, nous accueillerons Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI. On a reçu des questions évidemment après la débâcle du Real Madrid face au Barça, c'était le week-end dernier. Mais d'abord, des questions sur la polémique que suscite en France la publication d'un ouvrage d'historien sur l'imagerie du corps sous domination coloniale. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Vous êtes à Kigali au Rwanda, nous vous écoutons.
En effet, le livre d'historien « Sexe, race et colonie » a fait polémique suite à la publication d'images de corps violentés. Je voudrais savoir dans quelle mesure cet ouvrage peut-il modifier notre rapport à l'histoire et nos connaissances des périodes coloniales. Ensuite, certains reprochent à l'ouvrage de publier ces photos. N'y a-t-il pas un risque de porter atteinte à la mémoire des victimes en publiant ces images ?
Alors, cet ouvrage est publié aux éditions de La Découverte, 546 pages, 1200 images, des photos, des illustrations, le tout co-dirigé par 5 chercheurs, dont l'historien Pascal Blanchard. Bonjour.
Bonjour.
Chercheur au CNRS, spécialiste du fait colonial. On va revenir dans un instant sur la polémique que suscite cet ouvrage. Ouvrage dans lequel vous revenez sur 6 siècles de domination sexuelle, esclavagiste et coloniale. Car vous dites, vous, Pascal Blanchard, et les autres chercheurs qui ont travaillé sur cet ouvrage, que oui, la colonisation s'est appropriée des territoires, mais elle s'est aussi appropriée des corps.
Tout à fait. Il n'y a pas de colonisation sans domination. Et à la fois l'occupation des terres par des armées coloniales, c'est accompagné par une domination des corps, à la fois structurelle, juridique, mais aussi sexuelle. C'est-à-dire que le colonisateur avait une forme de tout pouvoir. Et pour arriver, d'une certaine manière, à exercer ce pouvoir, il a même installé des structures. D'une certaine manière, il avait une totale liberté. Et ce qui est incroyable, c'est que des images ont légitimé à la fois cette histoire, mais cette domination corporelle. Et ce livre a essayé de montrer comment les images ont fabriqué une culture en Occident, et aussi bien aux États-Unis, qui sont à la fois un empire intérieur et un empire colonial, notamment avec les Philippines et au Japon. C'est de montrer comment la matrice image a, d'une certaine manière, rendu normal l'anormal. C'est pour ça que montrer les images, ce qu'ont voulu faire les 97 chercheurs internationaux dans ce livre, c'est démontrer quelque chose qui était en fait de l'ordre de l'invisible. Cette domination sur les corps, et principalement le corps des femmes, est en fait une non-histoire. Quand on raconte l'histoire des empires, on oublie toujours qu'il y a cette part énorme de traumatisme qui a duré si longs siècles depuis que les conquistadors ont été en Amérique ou sur les contours d'Afrique ou dans le Pacifique.
Ouais, vous dites qu'il faut publier ces images. En même temps, on vous reproche justement, en les publiant, d'humilier les victimes de la colonisation qui ont déjà été humiliées de leur vivant.
Tout à fait. C'est des débats qui sont très importants et sur lesquels il faut prendre au sérieux. C'est-à-dire comment on peut arriver à déconstruire un imaginaire de domination, un génocide, une violence comme la Shoah, les lynchages aux États-Unis ou la violence sexuelle aux colonies sans montrer les images du crime. Nous avons choisi de montrer cette production justement pour arriver à faire comprendre comment elle a pu être légitimée à l'époque. Je rappelle que toutes ces images ont été diffusées largement à l'époque, que ce sont des images grand public, que ce sont des images justement qui ont fabriqué cette culture. Vous savez, dans les années 70, quand les premiers ouvrages sur la Shoah ont commencé à montrer des images, ceux qui ne voulaient pas les voir et qui ne voulaient pas les montrer, et on comprend pourquoi, c'était justement les déportés. Et en même temps, le fait d'avoir vu ces images a permis de déconstruire ce qu'avait été la Shoah et de faire prendre conscience à tout le monde de ce crime. De la même manière, en 2000, aux États-Unis, un livre est sorti sur les lynchages. Oui. Et pour la première fois, on voyait des photos de lynchage. Ce qui a permis d'imposer, de montrer au blanc américain qui ne voulait pas voir ce qu'avait été l'histoire du lynchage. À un moment, la problématique, c'est pas les photos. C'est ce qu'elle montre, la domination. Et si vous voulez faire comprendre à quoi ressemblait la domination aux colonies, quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, presque de l'invisible, tellement ça a été omniprésent, les images sont la dernière trace et la dernière preuve qui nous reste pour arriver à montrer ce que ça a été.
Merci beaucoup, Pascal Blanchard, de nous avoir accordé quelques minutes. Je sais que votre emploi du temps est extrêmement chargé ce matin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à Jean-Marc, qui nous appelait de Kigali. Je rappelle le titre de cet ouvrage, « Sexe, race et colonie », publié aux éditions La Découverte. Autre sujet, plus léger cette fois, avec Alejandro Valente, le chef du service des sports de RFI. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Alors, on n'a pas de chance. Amadou était en ligne il y a encore quelques instants de Brazzaville et... Plaque, la ligne a coupé. C'est pas de chance. C'est des choses qui arrivent. On va essayer de le rappeler évidemment. Amadou qui revient sur cette humiliation du Real Madrid week-end dernier. Donc le Real qui perd face au Barça 5-1. Le Real qui enchaîne les défaites depuis le début de la saison. Comment expliquer ce marasme, nous dit Amadou. Est-ce uniquement dû à l'absence de Ronaldo et de Zidane?
Alors d'abord, un point, ils n'enchaînent pas les défaites depuis le début de la saison. On a eu un premier mois plutôt pas mal, puisque depuis le début du championnat, ils avaient eu 5 victoires et un nul. Mmh. Et puis les derniers mois, ça a été une catastrophe, 5 défaites, toutes compétitions confondues. C'est évidemment beaucoup. Alors évidemment, départ...
C'est beaucoup, mais quand on regarde un peu l'histoire du Real Madrid, je crois qu'il faut remonter au début des années 80 pour s'apercevoir que le Real n'avait pas connu autant de défaites successives.
C'est vrai, mais
donc il y a crise.
Il faut se rappeler, il y a eu l'équipe de Benitez avait connu quand même pas mal des désillusions, et même la saison dernière, l'équipe des Zidane a connu un championnat assez chaotique. Mmh. Donc on peut dire que sur le plan du jeu, le Real Madrid était déjà un peu en déclin, et les victoires en Ligue des Champions avaient un peu masqué cette réalité que le président Florentino Pérez n'a pas voulu voir, que Zidane visiblement avait vu, et Ronaldo peut-être aussi. Ils sont tous les deux partis l'été dernier, et du coup, c'est une équipe vieillissante, sans beaucoup de repères, avec beaucoup de blessés ces dernières semaines.
Enfin,
également.
Quand même avec de bons joueurs, quand on regarde la liste des finalistes, oui. FIFA Ballon d'Or, sur les 30 finalistes, 8 évoluent au Real Madrid.
Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que ce soit forcément des joueurs qui sont au top de leur forme. On a vu ces dernières semaines des joueurs comme Varane, comme Sergio Ramos, comme Marcelo, comme Gareth Bale... un grand de mes formes. Lopetegui a voulu aussi changer les systèmes de jeu.
Lopetegui, l'entraîneur.
Lopetegui, l'entraîneur, donc, qui a été limogé. Et c'est vrai que tout s'est mal passé. Il y a eu un mauvais enchaînement. Surtout, il manque des buts. Et c'est vrai que Ronaldo a porté ça. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a plus
de buteur attitré au Real Madrid.
Absolument. Ils ont pris Mariano Diaz pour le remplacer. Donc, c'est vrai que c'est pas le même niveau. Donc il y a eu forcément des faillances du côté de la direction du Real qui attendait peut-être le moment de recruter un Neymar, une grande des stars, au lieu d'essayer d'améliorer ce qui pouvait l'être dans cette équipe.
Et vous avez raison de parler de la direction du Real, puisqu'on a tendance évidemment à taper sur l'entraîneur qui a été limogé lundi, mais Florentino Pérez, le patron du Real, a sa part de responsabilité. Oui. C'est lui qui n'a pas voulu remplacer Ronaldo quand il est parti à la Juve.
Absolument, et il n'a aucune autocritique pour évoquer tout ça. Alors voilà, c'est une situation assez dramatique.
Oui. Alors Amadou qui était en ligne il y a encore 15 secondes, la ligne vient de nouveau de couper. Pas de chance Amadou, changez d'opérateur, faites quelque chose. Il nous dit, voilà, il y a plusieurs noms qui sont évoqués pour remplacer Lopetegui. Qui sera le candidat idéal?
Pour l'instant, il y a Santiago Solari, c'était l'entraîneur de l'équipe B, donc qui a été promu. C'est un Argentin qui jouait avec Zidane à l'époque. Donc on peut imaginer, il aura environ 15 jours pour faire ses preuves, voir s'il peut redresser la situation. Mais sinon, dans les coulisses, on négocie aussi avec Antonio Conte, l'entraîneur italien qui était à Chelsea la saison dernière. Pour l'instant, il y a pas mal de problèmes qui empêchent la conclusion d'un accord. Mais si les choses ne s'amélioraient pas avec Solari, il y a de fortes chances pour que Conte finisse par s'asseoir sur le banc du Real.
Oui, vous pensez que le Real peut surmonter cette crise, Alejandro ?
Oui, bien sûr.
Oui, affirmatif.
Il y a de bons joueurs et c'était un grand club, donc on peut imaginer que tout va se terminer de façon plus positive qu'aujourd'hui.
On l'espère pour le Real Madrid. En tout cas, pour l'instant, le club est en 9e position dans le classement.